VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Il est 13h, temps universel. Tout de suite, un point complet sur l'actualité de ce vendredi. La Tunisie commémore son indépendance dans le deuil deux jours après l'attentat contre des touristes au musée du Bardo à Tunis. Le président Béji Caïd Essebsi doit de nouveau s'adresser à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance, après avoir promis une lutte sans pitié contre le terrorisme. Revendiquée par le groupe État islamique, l'attaque sans précédent depuis le printemps arabe, la révolution de janvier 2011, a coûté la vie à 20 touristes étrangers et un policier tunisien. Et l'Union européenne a promis ce vendredi de répondre au terrorisme après cette attaque de Tunis qui a démontré la menace posée par les djihadistes de l'État islamique en Libye. En effet, les deux assaillants tués par la police se sont formés au maniement des armes en Libye, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'État tunisien aux affaires sécuritaires Rafik Chelli. Ceci est une attaque contre l'Europe et l'Europe doit y répondre, a lancé de son côté la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, rappelant que la majorité des victimes était européenne. Et au moins 55 personnes ont été tuées ce vendredi à Sanaa dans un triple attentat suicide contre deux mosquées fréquentées par des Houthis, la milice chiite qui s'est emparée du pouvoir dans la capitale yéménite. Il s'agit de l'un des attentats les plus sanglants à frapper la capitale du Yémen, pays déstabilisé par une grave crise attisée par les Houthis et les djihadistes d'Al-Qaïda, deux groupes hostiles au pouvoir du président Abdorabo Mansour Hadi. Ces nouveaux attentats à Sanaa n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat. Au moins 30 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées aujourd'hui dans le déraillement d'un train dans le nord de l'Inde. Des chaînes de télévision montraient deux wagons déchiquetés et renversés au bord de la voie à environ 30 km de Lucknow, capitale de l'état de l'Uttar Pradesh. Les corps de 30 personnes ont été retrouvés, a dit le responsable des relations publiques de la compagnie Northern Railway, Neeraj Sharma, interrogé par l'agence France Presse. Retour sur le continent africain, l'activiste burkinabé arrêté en République démocratique du Congo est finalement expulsé, a fustigé à son retour au Burkina Faso les comportements de dictateurs du pouvoir congolais et appelé la jeunesse africaine à se mobiliser contre les dirigeants qu'on prenait au pouvoir. Selon Sibiri Ouédraogo, ce sont des comportements de dictateurs et de voyous qui ont l'habitude de réagir avec des moyens de forçat pour nous obliger à obtempérer, a-t-il lancé à son arrivée cette nuit à l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso. Je vous rappelle qu'une cinquantaine de membres du groupe Balai Citoyen en pointe dans la révolution qui a chassé le président burkinabé Blaise Compaoré l'attendait à son arrivée à l'aéroport et ont tenu l'hymne national. Autre information, aujourd'hui, le président nigérian affirme avoir bon espoir de déloger d'ici un mois le groupe Boko Haram de toutes les localités qu'il occupe dans le nord-est du Nigeria. « Je suis très optimiste, nous n'aurons pas besoin de plus d'un mois pour reprendre tous les territoires qui étaient tombés dans leurs mains », a-t-il déclaré à nos confrères de la BBC. L'armée nigériane très critiquée pour n'avoir pas su juguler l'insurrection islamiste qui a fait plus de 13 000 morts en 6 ans a annoncé des victoires sans précédent contre Boko Haram ces dernières semaines dans le nord-est du pays. Jusqu'ici, les soldats nigérians mal équipés et peu motivés étaient régulièrement accusés par les populations locales de fuir dès l'arrivée des assaillants. Et on reste au Nigeria, des dizaines de millions de Nigérians sont appelés aux urnes. Ce sera le 28 mars prochain. À quelques jours du scrutin, on peut se demander comment vont voter plus d'un million de personnes déplacées par l'insurrection de Boko Haram dans l'est du Nigeria. Les explications tout de suite avec Lionel Gaïma.
Les déplacés de Gombe sont venus de Damboa, dans l'état voisin de Borno, après une attaque de leur localité par Boko Haram. Ils se débrouillent pendant la journée avec des boulots qu'ils peuvent trouver, avant de s'entasser dans leur chambre de fortune pendant la nuit. S'ils veulent voter, il leur faudra retourner dans leur état d'origine, Borno. L'insurrection de Boko Haram, qui dure depuis 6 ans, a provoqué un exode du nord-est. Outre les personnes déplacées, plus de 150 000 Nigérians se sont réfugiés au Cameroun, au Tchad et au Niger. Appuyés par des soldats de ces trois pays et un certain nombre de mercenaires étrangers, l'armée nigériane a repris beaucoup de localités occupées par les insurgés au cours des 18 derniers mois. Mais ceux qui sont retournés chez eux ne retrouvent souvent que des ruines sur place. Bazam Ali, qui est de Damboa, aimerait bien retourner dans cette ville, mais il n'a plus de maison où vivre. Nous n'avons plus rien à Damboa. Tout a été brûlé et nous n'avons aucun moyen pour nous aider à y rester. Bien que Boko Haram ait été chassé de nombreuses localités, il est loin d'être neutralisé. Et les analystes s'attendent à ce que le groupe continue ses attaques dans le nord-est pendant des mois, voire des années encore. Ce qui rend fort risqué toute tentative de voter pour ceux qui réussissent à retourner chez eux.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles ont enlevé en un seul mois des centaines d'enfants pour en faire des soldats dans la guerre civile qui déchire le pays depuis plus d'un an. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Et dans l'est de la RDC, de violents combats ont opposé hier les forces armées congolaises aux rebelles des APCLS. Dans le Nord Kivu, de nombreux habitants ont été contraints de fuir. De son côté, le gouvernement congolais, estimant mieux maîtriser la sécurité dans la région, demande toujours le retrait progressif de la MONUSCO, tandis que la mission onusienne souhaite un renouvellement de son mandat, ce qui a mené les habituelles querelles hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons sur ce sujet Eddie Isango.
Les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, n'est pas allé par quatre chemins dans son adresse hier devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Pour lui, l'air a sonné pour que les Nations Unies commencent à retirer leurs troupes.
Nous continuons à avoir besoin d'un certain appui des Nations Unies, nous en convenons, y compris sur le plan militaire, nous en convenons, mais circonscrivons cela aux seules tâches qui restent, à savoir la neutralisation de ce qui reste des forces négatives, notamment de celles contre lesquelles nous sommes en train de combattre à ce moment dans l'Est de la République. Cela devrait permettre aux Nations Unies de commencer à réduire leur présence militaire en République démocratique du Congo.
Un peu comme pour répondre à ces propos du ministre congolais, le chef de la mission des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a lui estimé que la MONUSCO a encore affaire dans ces pays et demande au gouvernement congolais de mettre un peu d'eau dans son vin.
Le départ de la MONUSCO doit être lié aux résultats obtenus et à l'amélioration concrète de la situation sur le terrain. En attendant, nous devons trouver dès aujourd'hui les moyens concrets d'améliorer la situation et les relations. Je propose donc au gouvernement de réenclencher la coopération sur la base d'une confiance mutuelle.
Raymond Tshibanda s'est fondé sur les derniers hauts faits d'armes de l'armée congolaise et a estimé que la RDC est capable d'assurer sa propre sécurité.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont en train de monter en puissance tous les jours, et cela est reconnu par tous, ont la capacité aujourd'hui d'assumer la plupart des fonctions qui sont nécessaires pour le maintien de la paix et de la sécurité.
La demande du gouvernement congolais ne fait que confirmer la tension avec les Nations Unies. En effet, l'armée congolaise mène seule, depuis fin janvier, une offensive contre les rebelles hutu-rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. La MONUSCO se tient à l'écart. La goutte qui a fait déborder les vases, la présence aux commandes de l'opération de deux officiers congolais que la MONUSCO accuse des graves violations. La MONUSCO semble d'accord pour réduire ses effectifs, mais les nombres l'opposent au gouvernement congolais qui exige les départs d'au moins 5000 casques bleus du sol congolais. La MONUSCO, la plus grande mission onusienne dans le monde, avec un effectif d'au moins 20 000 hommes, souhaite en retirer seulement 2000. La question sera débattue dès lundi au Conseil de sécurité.
Au Mali, les forces spéciales de la DGSE ont appréhendé trois complices présumés des terroristes qui ont commis l'attentat du 6 mars à Bamako. Le porte-parole du gouvernement a donné cette information lors d'une conférence de presse. En Centrafrique, les activités judiciaires ont repris après plusieurs jours de paralysie. Les magistrats en grève depuis la semaine dernière ont été contraints de suspendre leur mouvement. Et puis le président équato-guinéen affirme que son pays est visé par des menaces terroristes lors d'une intervention nationale. Teodoro Biangema a affirmé que l'Afrique centrale faisait face à un phénomène qu'elle n'a jamais connu, le phénomène du terrorisme, au moment où un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale Malabo. Et puis pour tous les amateurs de sport, le football européen, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Nyon, les quarts de finale de la fameuse Ligue des Champions et le choc Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone lors des quarts de finale. Également le choc madrilène entre l'Atlético et le Real, Porto contre le Bayern de Munich et la Juventus de Turin face à l'AS Monaco. Ces matchs auront lieu les 14 et 15 avril, match retour les 21 et 22 avril. Et puis un mot de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au Sénégal. C'est le pays hôte qui affrontera le Nigeria dimanche en finale après sa victoire d'hier 2-1 face au Mali. Toujours en football africain, la fédération nigériane ne décolère pas après le faux bond de la sélection nationale bolivienne attendue pour un match amical au Nigeria. Les Boliviens, pour des raisons de sécurité et Boko Haram, ont en effet décidé d'annuler le match. Et puis on va également vous donner cette information. C'est le français Alain Giresse qui est nommé sélectionneur du Mali. Il a signé hier son contrat de 2 ans et demi avec la Fédération nationale malienne. Voilà, ainsi va s'achever ce bulletin d'information. Prochain point sur l'actualité, même heure, même endroit, sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.